les bibliothèques de ce type étaient aussi au XIXe siècle les lieux où l'on trouvait des journaux, en particulier des journaux, je dirais, révolutionnaires et séditieux. Car les libraires étaient soumis à des pressions de l'ordre du ministère de l'Intérieur, auxquelles ils ne pouvaient pas toujours échapper, et ce type de bibliothèque, en tant que lieu semi-ouvert, semi-fermé, était des lieux où l'on étudiait la presse et la presse révolutionnaire, et donc cette culture populaire qui mélange littérature, instruction, presse, information, appel à l'insurrection, donc des lieux mixtes, donc forcément confus, informels et profus. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait étonnant. Et je dois dire que depuis maintenant 20 minutes que je suis ici, je suis en train de me dire que, compte tenu de notre proximité avec la section des Porcherons pendant la Révolution française, et du coup toute cette filiation avec les insurrections parisiennes de 1830, 1848 et 1871, ce lieu a dû voir passer des gens comme Clovis Hugues, comme Proto, comme Maxime Lisbonne, comme Raoul Rigaud et comme Zévaco, que c'était des jeunes qui débarquaient au Quartier Latin et dont la grande difficulté au Quartier Latin était de trouver des livres, car les bibliothèques universitaires leur étaient parfois interdites quand ils n'étaient pas inscrits à l'université, et il se trouve que l'université, ils s'en faisaient renvoyer. Et donc je pense que justement par la proximité de certaines salles publiques, par la proximité d'un certain mouvement insurrectionnel populaire qui a duré tout le 19e siècle dans le quartier, je pense que c'est un lieu qui a vu passer un certain nombre d'ombres qui vont être derrière la conférence que je vais vous faire. Oui, Zévaco, cet auteur qu'on oublie et qui pourtant a bercé notre enfance, c'est-à-dire cette culture populaire que l'on oublie parce qu'elle a été tellement importante que finalement on vient à la considérer comme naturelle à un moment où on découvre les livres et comme quelque chose qui ne partira pas quand on se met à découvrir la littérature du dessus, et finalement quelque chose qui passe comme l'évidence et qui revient parfois au cinéma, mais là aussi, ce cinéma populaire des années du muet d'abord, puis des années du technicolor ensuite, a été pour nous considéré comme une évidence, comme quelque chose qui ne pouvait pas partir. Et quand on voit ce que la télé en a fait, et quand on voit ce par quoi ça a été remplacé, et ce à quoi cette culture a maintenant tendance à se remplacer elle-même comme un mouvement continu qui finit par s'annuler dans notre mémoire, on s'aperçoit que finalement, on en vient peut-être à délaisser l'essentiel. Donc Zévaco, oui. Zévaco en tant que littérateur, Zévaco en tant qu'inspirateur de films, Zévaco en tant qu'initiateur de rêves, et en même temps, Zévaco, qu'on ne connaît pas, en tant que journaliste anarchisant, journaliste socialiste révolutionnaire, qui, je l'ai découvert un petit peu au hasard de mes recherches, Zévaco qui a été un journaliste insurgé pendant quelques années, pas très longtemps, mais avec une force, une virulence et je dirais une anticipation de l'auteur qu'il va devenir, qui laisse un petit peu pantois et qui amène à réfléchir à la fois sur les liens entre la culture populaire et la culture révolutionnaire, car il y a une culture révolutionnaire, entre, je dirais, les chemins, la croisée des chemins au XIXe siècle, ce qui est un lieu de sociabilité, ce qui est un lieu de réflexion, un lieu d'insurrection, un lieu de repli, et puis en même temps sur la capacité d'un écrivain à faire mûrir son style dans, je dirais, sous des feuilles mortes ou sous des carcasses qu'on n'imaginerait pas au départ. Voilà. Alors, j'ai publié ce recueil d'articles de Zévaco, d'articles dans l'Égalité et dans le Courrier français. C'est à l'occasion donc de cette réédition que je fais cette conférence pour un petit peu présenter autour de ces textes qui était Zévaco et comment nous est arrivé un des auteurs de littérature de KPDP les plus étonnants qui soient, finalement, quand on en regarde le détail et quand on se paye la joie de pouvoir le relire. Car, comme le disait Michel Zévaco, une révolution n'est autre chose qu'un coup de pied au derrière de la société pour la faire avancer d'un pas. On a coutume de citer Sartre gamin, ébloui par les exploits de son champion littéraire. Surtout, dit Sartre, je lisais tous les jours dans le matin le feuilleton de Michel Zévaco. Cet auteur de génie, sous l'influence de Victor Hugo, avait inventé le roman de KPDP républicain. Sur quoi Sartre se plante, évidemment, comme d'habitude, puisque le terme KPDP a été inventé par Amédée Achard dans la KPDP, les aventures du vicomte Gédéon de Montestruc, que je vous... Il doit être ici, d'ailleurs, Sartre. certainement. Et le roman de KPDP républicain a été développé par Alfred Assolant. Donc vous voyez que des auteurs dont on a complètement oublié l'existence et qui sont pourtant des gens à redécouvrir. Mais il y aura d'autres conférences, j'espère. Donc, ces héros, dit Sartre, représentaient le peuple. Ils faisaient et défaisaient les empires, prédisaient dès le XIVe siècle la Révolution française, protégeaient par bonté d'âme des rois enfants ou des rois fous contre leurs ministres, souffletaient les rois méchants. Le plus grand de tous, pardaillant, c'était mon maître. 100 fois pour l'imiter, superbement campé sur mes jambes de coq, j'ai giflé Henri III et Louis XIII. Pardaillant, c'est l'archétype du héros de KPDP. Le rebelle empanaché et l'éternel insoumis, ballotté sur des milliers de pages de guet-apens en trahison, d'amours impétueux en rixe formidable, avec une rapière toujours brandie au nom des indigents contre les puissants, incarnés par l'Église, les jésuites, la noblesse, les nantis de tout poil. Ces aventures couvrent des milliers de pages pour un cycle de 10 romans, auxquels viennent s'ajouter d'autres aventuriers au cœur rouge et à la poigne formidable, comme le Royal de Beaurevers, Buridan à l'ombre de la tour de Nesle, François de Capestan, dit le capitaine, auquel Jean Marais prêta ses traits au cinéma. Mais nous avons aussi l'héroïne, à savoir la Reine Sanglante, l'héroïne Anaïs de l'Esparce. Anaïs, alors c'est le seul roman populaire dans lequel l'héroïne est véritablement une femme qui se bat en duel, comme les hommes, et qui défait les plus beaux bretteurs de son temps. Donc vous voyez cette... couverture de bibliothèque verte, peu usitée des jeunes filles. Vous voyez cette jeune fille qui se bat, héroïne complètement atypique dans le roman populaire. Donc, il y a aussi le Chevalier de la Barre, qui nous montre que Zévaco fut aussi un des auteurs les plus virulents de son temps, anticlérical par excellence, attaché à dénoncer les excès du cléricalisme et les excès du Jésus, cette espèce de total ubuesque dans lequel il décrit les hypocondries jésuitiques, le complot jésuite pour dominer le monde. Donc, l'anticléricalisme qui prétend donc dominer tout de la société et qui évidemment met aux prises Marianne avec les tentacules de la pieuvre. Vous voyez qu'elle a arraché, en 1882, elle a arraché l'instruction, mais que la pieuvre jésuitique tient encore les usines, les colonies, les magistrats, l'armée et donc tous les corps constitués. Donc, évidemment, le monstre clérical, évidemment, l'instruction catholique, l'action cléricale et les bienfaits cléricaux à dominer le monde, les satrapies jésuitiques. Enfin, je ne pouvais pas, bien sûr, ne pas mettre une image de Josso, le cléricalisme dénoncé par Josso. Alors, il est aussi anticolonial. Anticolonial, et il dénonce, Zévaco, les dérives du colonialisme avec ce dessin, bon, qui est un dessin extrêmement rare, qui est paru dans un des journaux dans lequel travaillait Zévaco. Donc, au sein du panthéon de cette littérature hybride et mal définie, qu'on qualifie de populaire, le Chevalier de Pardaillan est un personnage sans équivalent, plus révolté que D'Artagnan, moins sombre que Scaramouche, plus libertin que le capitaine Fracasse et quand même moins niais que le chevalier de Lagardère et son aurore de femme-enfant. Pardaillan est un embryon de Zorro, mais un justicier à découvert, tonitruant, excessif, au point d'en devenir ronflant comme un ver gascon. Tous et toutes ces héros ont en commun révolte et démesure. C'est la révolte doublement subversive, anarchiste avec les socialistes révolutionnaires, libertaire avec la bohème, Montmartroise et le Godéamus de Steiner, car Zévaco va à la fois fréquenter les libertaires de Montmartre, du Chat Noir, du Théâtre d'Ombre, sur lequel Humoresque a fait un numéro hautement remarquable autrefois, et justement dans lequel il y avait tous ces thèmes d'édification, mais qui étaient accompagnés derrière d'une fibre épique que Zévaco va réinterpréter à sa sauce anarchiste, car quand il décale de quelques rues ses fréquentations du Chat Noir, il tombe sur la rue Bochard de Saron et la Revue Blanche et les cabarets libertaires que fréquentent Ernest Gigou, Charles Malato et Félix Fénéon. Il y a donc dans cette espèce de profusion montmartroise quelque chose beaucoup plus politique qui a été édulcoré avec le temps et dont les histoires aujourd'hui de la bohème chantante ont complètement oublié le caractère subversif car il est évidemment nettement plus difficile à identifier à cause des profils qui ont essayé d'échapper à l'historien, comme à l'époque, ils ont essayé d'échapper à la police. Donc, on a finalement simplifié l'histoire de la bohème montmartroise aux artistes, en oubliant que parmi les artistes, il y avait un certain nombre de militants qui, justement, tiraient une fibre de subversion de leur fréquentation artistique, les artistes, à leur tour, se nourrissant des militants, avec des allers-retours qu'il conviendrait aujourd'hui de mettre à jour, et c'est pour ça que je tenais un petit peu à vous présenter des images montmartroises, à côté de cette conférence. Là où on signalerait chez d'autres une emphase tirant à faire le ridicule ou un style désespérément empoulé, on salue Zévaco pour sa fougue et une absence totale du moindre complexe stylistique ou littéraire. La Saint-Barthélemy, par d'ailleurs. La lourde cloche s'ébranla, se balança, tressaillit, grinça. Près du balcon, deux ombres, à demi penchées en avant sans oser se montrer, attendaient, raidies par l'angoisse de cette minute fatale. C'était Catherine de Médicis, toute vêtue de noir. C'était son fils bien-aimé, Henri, duc d'Anjou. Ils se tenaient par la main, ils étaient blêmes. Tout à coup, devant eux, la voix grave, profonde et mugissante du bronze donna son premier coup de gueule. Le duc d'Anjou, d'une secousse, échappa à l'étreinte de sa mère et recula, recula, recula jusqu'à ce que, trouvant derrière lui un fauteuil, il tomba en se bouchant les oreilles. Catherine, comme poussée par une force invincible, s'était redressée avec un soupir terrible. Elle bondit sur le balcon, se pencha vers l'appui, noir funèbre, les ongles incrustés à la pierre. Pareil à l'archange de la mort. La cloche, la grosse cloche de Saint-Germain-l'Auxerrois, hurlait, gueulait, mugissait, rugissait comme folle. Alors des bruits étranges, des rumeurs inouïes, montèrent du fond de l'ombre. Près de Saint-Germain, une autre cloche mit à hurler, puis plus loin une autre, puis d'autres, toutes les cloches, tous les tocsins de Paris, secouant sur la ville les rafales monstrueuses de leurs sonorités éperdues. En bas, des ombres apparaissaient, qui couraient, se heurtaient, vociféraient, et des éclairs jaillissaient des épées. Des torches, des centaines de torches, des milliers de torches s'allumaient, et la ville paraissait toute rouge, tout embrasée par les feux de l'enfer, soudain ramenée sur la terre. Derrière Catherine, dans le Louvre, un coup de pistolet retentit, puis un autre, puis d'autres. Le grand carnage humain, la grande hécatombe humaine venait de commencer. Là où un chevalier classique crie sa rage, là par d'ailleurs la rugit. Là où un escrimeur repousse un quarteron d'adversaire, Pardaillan fait reculer une meute d'assaillants en dégainant sa rapière. Son ennemi juré, Fausta, est une milady décuplée et les images dénudées, crucifiées de la malfaisante sont d'une violence synchrone en couverture de ses fascicules faillards, pas encore Talandier. Talandier, c'est Jules Barret, hein, c'est Caro Coupe-Tête, et bien Faillard, c'est Zévaco, qui reprennent les feuilletons édités dans les colonnes de la Petite République ou du Matin à partir de 1900. Et vous le voyez ici. Vous voyez quand même, je veux dire, la retenue, le style néo-proustien de l'auteur. Trinquemaille, Corpodibal, Bourracan, Starpafar, des truands, des malandrins, toujours flambergeovant parmi les aventures cliquetantes du choc des rapières, des gens de sac et de cordes. Mais qui sait si les cœurs d'hommes ne battent pas sous ces haillons? Et quant à leur jeune chef étincelant d'audace et de beauté, quant à ce jeune homme qui porte si fièrement ce fier nom, quand même, faut oser, hein. Ça, c'est pas Zévaco, hein. Ça, c'est le publicitaire de Faillard, qui ose tout. Quelle fatalité la mêlée à ces êtres, et quel génie tutélaire l'escorte jusque sur l'échafaud. Et là, quand même, les troncs, c'est absolument génial. Donc, c'est absolument grandiose. Et donc, évidemment, le cinéma s'en empare, avec le trait caractéristique de l'épée qui flamboie, parce que, là, on le voit. Pardaillan, il repousse une foule. D'Artagnan, il défait les gardes du cardinal au couvent des Carmes des Chaux. 3-4 gardes, et en particulier le chef des gardes du cardinal. J'ai d'ailleurs oublié son nom, ça me reviendra. Le bossu, lui, il défait parfois 20 personnes, 20 spadassins dans les ruines du château de Caylus. Merci. Mais alors, Pardaillan, il dégaine et c'est une foule de 1000 personnes qui recule. Parce que là, chez Zévaco, il y a la culture de la manifestation. Donc il y a quelque chose qui tient de la foule qui apparaît dans toutes les lignes. Et voilà, donc, et couverture censurée bien sûr, car la première couverture rarissime représentait une femme crucifiée exactement comme l'affiche interdite de « Je vous salue Marie » de Godard dans les années 80. Le thème de la femme crucifiée revient comme une antienne de la censure et de l'interdiction des images, de la subversion iconographique et de l'anticléricalisme que l'on retrouve du coup décliné au fil des siècles sur une centaine d'années qui cumulent les mêmes motifs de la littérature au cinéma pour là encore une filiation qui est tout à fait formidable et dont les ramifications sont passionnantes à mettre à jour. Donc, derrière ça évidemment, les aventures et cette idée d'érotisme et en même temps de dénonciation des atteintes faites au corps de la femme trouve un écho tout à fait effarant chez un auteur qui est quand même, en théorie, un auteur pour adolescents, voire même jeune adolescent. Je cite. À ce moment, une femme, une huguenote d'une maison voisine, bondit échevelée, hagarde, ses vêtements en lambeaux, presque nue. C'est le presque nu qui sauve la scène. Si elle est nue, ça passe plus. Mais presque nue, ça passe. Et vous allez voir, c'est costaud. En criant d'une voix déchirante, grâce, une douzaine de forcenés la poursuivaient. La femme, jeune, belle, alla heurter Orthès, Orthès c'est le méchant, tomba à genoux et pantela, du verbe panteler, et pantela les mains tendues. Grâce, ne me tuez pas, pitié. Un effroyable sourire contracta les lèvres du maudit. Il leva son fouet, toucha la femme, puis il hurla. Taillot, Pluton, taillot, Proserpine, taillot. Au même moment, deux chiens énormes à la gueule rouge de sang se jetèrent sur la femme. Elle eut une horrible clameur d'épouvante et tomba à la renverse, les deux chiens sur elle. Un coup de croc de Pluton lui ouvrit la gorge. La gueule de Proserpine s'implanta sur un de ses seins. Pendant quelques secondes, les pardaillants, pétrifiés d'horreur, ne virent qu'un amas de chair pantelant, de l'adjectif pantelant, d'où fusaient des jets de sang, n'entendirent que les grognements sourds des deux chiens occupés à l'horrible besogne. Alors le chevalier, pâle comme un mort, la lèvre soulevée par l'étrange sourire qu'il avait à de certaines minutes, la moustache hérissée, tremblante, marcha sur Orthès. La mort fut épique. C'est une scène épouvantable pour des gosses qui représentent une femme dévorée par des chiens. Mettez ça à la télé aujourd'hui à 18h, à 17h pour un programme pour enfants. Vous allez voir les parents comment ils vont réagir. Cette outrance inclut heureusement le second degré, et Zévaco introduit en permanence une gouaille et un humour qui permettent à la mayonnaise de prendre. Malheur, malheur, gémit Landy Grégoire, c'est l'aubergiste, en faisant le geste de s'arracher les cheveux, opération impossible puisqu'il était entièrement chauve. Malheur, mon auberge va être saccagée, si on sait qu'ils ont fui par là. Fuyez, fuyez, répéta Huguette. Ils s'élancèrent et disparurent dans l'escalier. Quelques instants plus tard, la horde des loups pénétrait par la porte de l'allée défoncée et ne trouveront plus personne, mettez l'auberge à sac et à feu. « Maître Landry !» cria le vieux pardaillant depuis la rue. « Vous mettrez l'auberge, la casse et l'incendie sur ma note !» C'est extraordinaire. Cette dimension disparaît à peu près complètement des adaptations cinématographiques, forcément édulcorées, pour un jeune public davantage couvé et protégé dans les années 50. Ne demeure que la fougue, le panache et une certaine dose de bonne humeur. Vous voyez, la brune, forcément méchante, Elsa Mertinelli, la blonde, forcément gentille, qui est jouée par je ne sais plus qui. Je croyais que c'était. Et donc, évidemment, la bonne humeur, Bourville qui fait clown, et Jean Marais qui sauve. Donc vous voyez, par exemple, Chevalier de Pardaillan, Gérard Barret, qui a fait aussi des San Antonio, ben là, c'était l'acteur des années 60, je dirais, du cinéma de série B quand même. Voilà, cette bonne humeur. Vous voyez, ben voilà, Jean Marais qui se bat en duel, Gérard Barret qui saute d'un arbre, il y a toujours ce côté bondissant, qui fait donc pendant à l'esthétique de couverture. Regardez quand même cette dominante rouge-noire, qui n'est pas innocente, on revient sur Godéabus tout à l'heure. Donc voilà, Jean Marais qui affronte le personnage négatif qui va mourir le plus de fois sous sa flamberge, qui s'appelle Guy Delorme, qui est un cascadeur, hein, qui joue dans tous les films de Jean Marais. Alors vous voyez, si vous cherchez qui est ce type qu'on le retrouve dans tous les films de Jean Marais et qui meurt toujours à un moment tué par Jean Marais, bah, vous ne serez pas venu pour rien, vous saurez que c'est Guy Delorme. Maintenant, aujourd'hui, Patrick Bouchitet, qui a tourné un pardaillon complètement passé inaperçu dans les années 80, qui était, il faut dire, pas terrible. Et plus près de vous, Guillaume Canet, qui a commencé dans Pardaillan, dans une série télévisée encore pire, qui ne fait pas honneur à sa filmographie, malgré une sincérité et un enthousiasme absolument déchirant qu'il mettait à sauf les épisodes du dénuement le plus total, c'est-à-dire qu'en fait, il y avait trois méchants, une épée et lui. Donc ils essayaient de faire un film de cap et d'épée avec les trois mêmes méchants qui mouraient en fil des épisodes, à chaque fois les mêmes. C'était un petit peu quand même un petit peu cheap, comme disent mes élèves. Pardaillan peut être considéré comme un héros caractéristique de la France républicaine des années 1900. Il représente un symbole de liberté et d'héroïsme national contemporain, ne l'oublions pas, du Cyrano de Bergerac. Alors qui est ce Pardaillan? Qui est derrière ce Zévaco Pardaillan dont nous allons le voir, le profil se confond avec son auteur. Au point qu'il y a eu des timbres Pardaillan. Assez intéressant. Michel Zévaco naît à Ajaccio le 1er février 1860 d'un père tailleur pour l'armée. Sans être indigente, la famille n'est pas riche. Il passe son bac à Angers et monte à Paris pour préparer le concours de l'école normale supérieure au lycée Saint-Louis. Première rencontre avec le quartier latin et sa bohème. Et ça ne dure pas. Il se retrouve bombardé professeur de 5e au collège de Vienne, dans l'Isère, par décision rectorale et sans passer le concours. Il n'a pas eu assez d'argent pour le passer. C'est un peu le maître auxiliaire de l'époque. Attachons-nous à une note du recteur en date du 8 juillet 1880. Pas assez de soins pour préparer la classe, ni pour corriger les devoirs, n'obtient pas de ses élèves assez de travail. En langage pédagogique décrypté, cela veut dire que le jeune prof préfère raconter des histoires aux jeunes pousses, leur lire des textes, plutôt que de les mettre en activité, comme disent les inspecteurs aujourd'hui, et d'éviter pour eux comme pour lui le pensum des copies. Elles sont là d'ailleurs mes copies, j'en ai ici. Pas bon ça. Il s'ennuie, certainement, il milite, peut-être, quoi qu'on n'en ait pas retrouvé trace, mais surtout, il séduit. En l'occurrence, l'épouse d'un teinturier, conseiller municipal. Un beau matin, quand Zévaco séduit, il enlève. Un beau matin, Zévaco enlève tout de bon la femme du municipal, ce qui lui vaut d'être révoqué de l'enseignement dans la foulée. Car quand on couchait avec la femme du municipal, à l'époque, on était révoqué de l'enseignement. Dieu merci, ça a changé. Furieux, il n'accepte pas la mesure et fonce à Paris pour forcer la porte du ministère, investir le bureau de Jules Ferry à leur ministre et lui jeter rageusement sa lettre de démission sur son bureau, ceinturée par les huissiers épouvantés. Vous voyez le genre de personne qui accepte tendrement, doucement, la mesure d'exclusion dont il vient d'être victime. Il force la porte de Jules Ferry. Assez invraisemblable. Pour survivre, il devient rond de cuir à la compagnie PLM, mais l'exotisme sur papier glacé ne lui convient pas. Comme beaucoup de jeunes têtes brûlées, il s'engage sur un coup de tête le 30 mars 1882, à 22 ans, au 9e régiment de dragons stationné à Cambrai. Bientôt sous-officier, bien noté pour son intelligence et son sens de l'action, il n'en défrait pas moins la borne chronique de la caserne par ses frasques. A-t-il gagné aux cartes quelques bouteilles d'Hermitage? Il décide de les boire plutôt que de perdre sa nuit à faire des rondes et arrive le lendemain pour diriger l'instruction dans un état légèrement zigzagant, peu compatible avec la dignité du dragon. Un maréchal des logis le fait mander et le voilà qui rétorque « Faites dire au gradé que je suis couché ». Chose qu'on ne répond pas au gradé. Bilan, en tout, 88 jours de consigne et 118 jours de salle de police, c'est-à-dire quand même plus du tiers d'une année. Mais ne nous y trompons pas, Zévaco a aimé l'armée dans laquelle il voyait une école d'action. Simplement, il est réfractaire à la discipline et à l'autorité, et il défendra à plusieurs reprises le pauvre conscrit ou le simple troupier. Zévaco se méfie en fait d'une force armée qui ne serait pas contrôlée par le peuple, quoiqu'il juge le maniement des armes comme faisant partie du bagage essentiel d'un révolutionnaire. À 26 ans, il se retrouve donc libre, enfin, en 1886, dans ce quartier latin qui a changé, depuis la loi sur la presse de 1881, l'accomplissement de ce rêve républicain qui a voulu donc libérer la presse du règne de la censure. C'est pour lui une période de formation qui va être déterminante et sur laquelle, paradoxalement, nous manquons le plus d'informations. A-t-il vraiment décroché un emploi de secrétaire de commissaire de police, grâce auquel il aurait pu par la suite obtenir de précieuses informations par un réseau d'amis demeurés fidèles? La chose semble peu probable, mais expliquerait peut-être, par rapport à tout ce que je vais vous dire du Zévaco militant, l'absence totale de dossiers de police qui est saisissante au regard de gens beaucoup moins militants que lui et qui ont eu quand même des dossiers beaucoup plus volumineux. Or sur Zévaco, il n'existe absolument rien à la montagne Sainte-Geneviève, à mon grand désappointement, parce que j'aurais beaucoup aimé que la police soit un tout petit peu plus vertueuse et un tout petit peu plus vigilante, et me donne à moi, paix à ses cendres, mais paix à son âme, et me donne à moi, qui suis à ses trousses, un peu plus de renseignements sur le personnage. A-t-il côtoyé d'anciens communards au coup de feu, par exemple? Un cercle animé par le chansonnier Eugène Châtelain, vétéran des barricades lui aussi, dont il fut longtemps familier. On ne le sait. À un moment, il est boulangiste. À un moment, il est boulangiste. Mais pas longtemps. Il ne va pas longtemps rester sur le boulangisme. Sa rencontre avec Louise Michel est absolument essentielle, car elle va le convaincre de s'adonner à l'écriture. Zevaco se lance à corps perdu donc dans l'écriture pour un premier roman sur les mœurs militaires, Le Bout de Charge. À force de persévérance, il arrive à convaincre un littérateur assez connu du moment, qui je suis persuadé occupe une moitié d'étagère sinon plus ici, Paul Ginisty, de le faire publier. Le livre sort en 1888 à la librairie illustrée. Zevaco est dorénavant écrivain. Le 30 juin 1889, il fait son entrée au journal L'Égalité avec un feuilleton intitulé Roublard et compagnie, les tripoteurs du socialisme. C'est pas un roman contemporain, hein, c'est un roman de l'époque. Roublard et compagnie, les tripoteurs du socialisme, ils parlent pas des tripatouillages du nucléaire, mais je vous assure que ça vaut quand même son pesant de cacahuètes. Sauf qu'il faut être vraiment féru de politique de l'époque pour comprendre la moitié des clés. Je mets au défi l'historien le plus chevronné de la politique de la Troisième République commençante, hein, qu'il y a des gens comme Dominique Lejeune ou Jean-François Cirinelli ou Jean Garrigue qui sont des épées dans la matière, de comprendre plus de la moitié des clés. Moi, je ne comprends pas le dixième, soyons clairs. Hein, c'est vraiment absolument effarant. Donc, qu'est-ce que l'égalité? C'est l'ancien cri du peuple de Jules Vallès, dirigé depuis 1885 par une femme assez exceptionnelle, Séverine. Séverine, c'est la veuve de Vallès. C'est celle qui l'a accompagné jusque dans ses derniers instants. Et Séverine a donc hérité du Cri de Paris, le journal de Vallès, qu'elle va essayer de faire marcher pendant 2 ans, sans y arriver, car elle souffre de 3 tares en la matière. Elle est jeune, et on ne dirige pas un journal d'anciens combattants quand on est jeune, parce que, évidemment, les vieux vous font la leçon. C'est une femme, et le milieu révolutionnaire est extraordinairement machiste, particulièrement des révolutionnaires communards, ce qui est un petit peu inconséquent, les 48 heures, les communards, mais c'est quand même un mouvement qui est très très phallocrate, comme la plupart des mouvements révolutionnaires jusqu'au Front Populaire, et encore, il y aurait des choses à dire. Et enfin, elle est sincère. Elle est sincère, et comme toute personne sincère, elle est influençable, et elle est toujours du côté du dernier qui a parlé. Ce qui fait que Séverine va d'ailleurs se compromettre assez gravement avec le boulangisme, mais c'est une autre histoire. Donc, elle va, malheureusement, voir couler le titre, d'autant plus qu'elle a une fâcheuse tendance à coucher avec la plupart des rédacteurs qui sont quand même très nettement ses aînés, ce qui fait que les vieux crabes du Cri de Paris retrouvent une certaine jeunesse, mais aussi une certaine jalousie, ce qui font qu'ils vont à peu près tous se déclarer plus ou moins des duels, se provoquer en duel, enfin ça va tourner un véritable désastre, et le titre n'y survivra pas. Séverine, enfin, jette les comptes. Le 29 août 1888, elle abandonne l'administration à Ernest Vaughan, le prochain directeur de l'Aurore, celui qui lancera J'accuse, hein, le Ernest Vaughan de J'accuse, et la direction politique au blanquiste Édouard Vaillant, qui va fusionner le titre avec son propre journal, L'Homme Libre. Mais à ce moment-là, on conteste le titre de propriété, ce qui entraîne la liquidation du Cri du Peuple. C'est alors qu'entre en scène un personnage inattendu, Jules Roch, ancien courtier en réclame, et directeur d'un récent titre satirique en pleine expansion, Le Courrier français. Le Courrier français, je vous le dis tout de suite, je ne vais pas m'apesantir dessus parce que c'est mon dada, mais c'est LE titre satirique en vogue de la belle époque, avant le rire. Hein, c'est vraiment, il y a 2 titres qui sont absolument en première ligne, 3, on va dire, avec La Vie parisienne, un petit peu qui précède, Le Charivari arrive à mourir, hein, je vous rappelle, en 1894, il va y avoir Le Courrier français, puis Le Rire. En 1889, la main sur le cœur, garantissant la vocation de tribune libre attachée au Cri du Peuple, Jules Roch se voit remettre les clés du titre par Séverine et réussit à faire fuir Jules Guesde et Édouard Vaillant en quelques semaines. Il rebaptise le titre en Légalité pour faire enrager Guesde, qui avait autrefois fondé un titre éponyme. Et Jules Roch va déclarer la guerre aux guédistiques. Roch remanie totalement la rédaction sous aux accusations de boulangisme portées contre lui. Farouche partisan du général en 1886. Il avait fait du Courrier français une feuille boulangiste. Il a proprement retourné sa veste et se revendique désormais le plus fervent ennemi du boulangisme. Il fonde dans la foulée de l'égalité la Ligue socialiste révolutionnaire en 1889 qui se donne un but modeste et tout à fait réalisable, unifier toutes les fractions du socialisme. Il ne connaissait pas encore les primaires, mais laissez-moi vous dire que même à l'époque, le socialisme était un petit peu plus compliqué qu'aujourd'hui. unifier le socialisme en un seul parti, pour l'époque, c'est un tout petit peu démesuré. Donc, unifier tous les courants socialistes, et évidemment, ça lui permet de dénier aux autres partis la moindre légitimité. Mieux encore, Jules Roch fonde une éphémère Ligue des femmes socialistes, dirigée par une vibrionnante amazone, Astier de Valser. Il renvoie tout le personnel du journal, qu'il remplace par un personnel féminin, rapidement formé sur le tas, et, vous pourriez me dire, c'est un progrès social extraordinaire. Pas du tout, car ça lui permet d'exploiter ces jeunes filles et de les sous-payer. Pour sa défense, ce sont probablement des jeunes filles sorties du trottoir, l'homme menant une lutte farouche contre la mafia des proxénètes du boulevard Rochechouart. Bel exemple de féminisme militant, me direz-vous. Hélas, ce sont tout aussi probablement les jeunes filles peu accortes qu'il a refusé d'embaucher à la salle de l'Élysée-Montmartre, appartenant à son ami d'esprit et qu'il dirige en sous-main. Peut-être même ces pauvres filles ont-elles été recalées pour orchestrer les délices des messieurs riches de la maison close Le Perroquet Gris, rue de Steinkerck, attenante à l'Élysée-Montmartre, et que je soupçonne beaucoup d'appartenir aussi à Jules Roch. Donc je résume le tableau. Jules Roch est un impresario, courtier en publicité, directeur de presse. En tant qu'impresario, il lance par exemple quelqu'un que vous connaissez, qui est Yvette Guilbert, c'est lui qui lance Yvette Guilbert. Donc en tant qu'impresario, il auditionne. Les filles les plus jolies, et on va dire un peu prudes, vont chanter à l'Élysée-Montmartre. Les filles un peu moins jolies ou un peu plus dessalées vont en maison au Perroquet Gris. Et les moches vont en sous-sol de l'égalité pour tirer le journal sous-payé. Et le type dirige une ligue des femmes socialistes en disant égalité entre les hommes et les femmes. Vous voyez que très franchement, c'est sidérant quoi. Mais lui, Zébaco évidemment, il va se faire l'apôtre de l'égalité homme-femme avec un texte que j'ai ici réédité qui s'appelle Candidature féminine et qui est absolument remarquable. Voilà longtemps qu'on parle d'émanciper les femmes, de leur restituer la vraie place qu'elles doivent occuper dans la société, et les adversaires de l'émancipation féminine n'ont trouvé aucun argument sérieux. La pratique démontre journellement que dans toutes les classes de la société, la femme est l'égale et parfois même la supérieure du sexe fort par l'intelligence et le courage. Vous voyez, il suit un texte qui, lui, ne tient absolument pas compte de la réalité de l'égalité et bouleverse complètement les idées reçues de l'époque. Car à chaque fois que Jules Roch fait des turpitudes, Zébaco lui prend la chose au pied de la lettre et pense que Jules Roch est sincère. Évidemment, il va se faire bananer par Jules Roch pendant les 3 ou 4 années de l'égalité, mais n'anticipons pas. Donc, Jules Roch a réussi à obtenir la plus grande part du financement de ses activités d'un obscur pharmacien de Sainte-Ménéhoulde, patrie du pied de couche, Auguste Géraudel, pour le compte duquel il vante les pastilles au goudron au fil des pages du Courrier français. Il va faire de ses campagnes une des sources de la publicité moderne. Les campagnes Géraudel, c'est absolument sidérant, c'est totalement le matraquage moderne américain que Jules Roch a compris avant les autres. Roch n'étant pas un homme d'une parfaite transparence, ses appuis politiques sont des plus flous. On ne sait pas vraiment si antisémite, il est anti-boulangiste de fraîche date ou non anti-boulangiste. Il est anti-possibiliste, anti-guédiste, anti-blanquiste, c'est plus sa dispute avec Vaillant, Édouard Vaillant, anti-franc-maçon, plutôt favorable à Danton et au républicanisme de 1792 dans le Courrier français, et au même moment plutôt favorable à la sans-culotterie de Marat dans les colonnes de l'égalité, appelant dans le Courrier français à l'érection d'une statue de Lazare Carnot au moment de l'élection du petit-fils Sadi à la présidence, et appelant à détruire les statues de Carnot, de Lazare Carnot, dans les colonnes de l'égalité au même moment. Le type, construisons des statues de Carnot dans un de ses journaux et détruisons-les dans l'autre. C'est quand même assez gonflé. Les anarchistes en particulier ne veulent pas entendre parler de Jules Roch, le prenant au mieux comme un pornographe, au pire comme un mouchard et un homme de paille manipulé, ce qui est fort possible. La Ligue socialiste a beau revendiquer son rôle national, l'égalité a beau se rêver en quotidien de large diffusion et Zébaco militer dans le 12e arrondissement, l'assise de la petite bande est à Montmartre, dont Jules Roch régente en partie les nuits, et dans le quartier populaire de Clignancourt. Jules Roch va se présenter contre le général Boulanger à Clignancourt. Zébaco n'est donc plus seulement auteur de feuilletons. Son patron ayant à gérer un journal satirique, une salle de spectacle, une campagne électorale, le jeune Corse se voit confier bientôt la rédaction en chef de l'égalité. Roch et Zébaco tiennent des réunions souvent houleuses, et le jeune écrivain se fait remarquer par sa faconde et sa capacité à photographier visuellement les participants, ce qui fera de lui un redoutable identificateur de mouchards. La lettre aux électeurs de Picpus Belair, que publie l'égalité à la veille du scrutin est assez éloquente. Relevons-nous, frappons et mordons au besoin. Il ne faut pas qu'on nous écrase la République sociale. Nous la défendrons par la plume et la parole, nous la couvrirons de nos poitrines. Quitte à tomber un jour sur quelques sanglantes barricades, fils de 89, songez à préparer un suprême 93. Évidemment, avec un discours pareil, le résultat de l'élection est sans surprise, Zebakou recueille 1,1% des voix. Le chantier suivant est la préparation du 1er mai 1890. Zebakou se lance dans la bataille et y déploie une énergie qui va sidérer les contemporains. La manifestation doit être le germe d'un mouvement plus dur, selon lui. Elle doit déboucher sur un mouvement social d'envergure, peut-être plus encore, sur un coup d'État. On est loin de Jules Guesde, qui milite pour un cortège digne et pacifique. Plus précisément, Zebakou met sur pied une chambre syndicale, des chauffeurs et ouvriers gaziers, suite au licenciement d'un ouvrier du gaz dont il prend la défense dans l'égalité. Dans le même temps, Jules Roch crée une ligue foraine, syndicat des gens de foire. Ceux-ci travaillent sur le boulevard Rochechouart et constituent une sorte de lumpen prolétariat artistique interlope dans lequel le directeur de l'égalité puise des attractions destinées à l'Élysée Montmartre. C'est-à-dire qu'il y a la fête foraine. Vous l'avez connue, cette fête foraine, sur le boulevard Rochechouart. Elle a existé pendant 100 ans. Elle n'existe plus depuis 10 ans, simplement. Ça fait 10-12 ans qu'elle n'existe plus. Vous l'avez connue. Eh bien, Jules Roch va y tirer l'essentiel d'une sorte de garde prétorienne parmi les gars qui s'occupe des baraques de foire et du cirque Molière, futur cirque Medrano. Il recrute les lutteurs de foire, dont il va faire finalement une sorte de garde prétorienne avec laquelle il va faire campagne. Et évidemment, comme il crée une ligue foraine, organe de défense des forains, il va créer un journal illustré, qu'il va appeler l'organe de la ligue foraine, et qu'il va faire illustrer par un peintre forain. Forain, qui vient de faire faillite avec son premier titre, eh bien, Jules Roch rachète tous les dessins du titre, il rachète sa faillite et il publie les dessins de Forain dans la Ligue Foraine. Donc vous voyez le bonhomme qui fait absolument feu de tout bois. Donc derrière, Zebakou va tirer à boulet rouge contre le gouvernement et il va à côté, donc vous voyez le courrier français, hein, je suis la sainte démocratie, j'attends mes amants, à côté du syndicat des gaziers, ils vont mettre en place un syndicat d'ouvriers boulangers qui pourrait éventuellement jouer un rôle stratégique lors d'un éventuel mouvement social pour alimenter en pain les différentes barricades. Vous voyez que c'est pensé quand même. Le gaz pour couper la lumière, le pain pour ravitailler les barricades. En même temps, Zebakou tire à boulet rouge sur le gouvernement, faisant du président Carnot, du président du conseil Floquet, Goblet, Jules Ferry, ses cibles favorites. Il exècre parmi tous le ministre de l'Intérieur, Constant, contre lequel il tonne, vitupère et enrage à tour d'article. Constant, dont la priorité au printemps 1890, et elle sera à vapeur, mon bourgeois, est de désamorcer le 1er mai en préparation, et qui va faire appel à la célèbre imprimerie Chex pour recouvrir d'affiches colorées et publicitaires les placards appelant à la manifestation, tandis que la police est sur le pied de guerre et arrête l'école. Et là, on est exactement dans le paradoxe de cette universalité des médias qui s'empare de la société parisienne de la Troisième République. Le courrier français a comme dessinateur Forain Villette et Chéret, qui retrouvent une deuxième jeunesse à faire les couvertures et les encarts illustrés du courrier français. Or, l'imprimerie Chex, qu'emploie Constant pour recouvrir les affiches du courrier français et de l'égalité, c'est l'ancienne imprimerie fondée par Chéret qu'il a vendue pour passer à autre chose. Donc vous voyez qu'on est finalement dans un ensemble absolument paradoxal. De fait, le ton monte et la police est sur le pied de guerre. Les mouchards pullulent, les provocations se multiplient. La justice va sauter sur l'occasion d'un article un peu plus explosif qu'à l'accoutumée pour inculper Zebakou. Il faut dire que notre Corse s'est surpassé. Le 4 avril 1890, il signe en effet un court brûlot en couverture de l'égalité intitulé « À toi Constant !» point d'exclamation, et dans lequel il provoque tout simplement le ministre de l'Intérieur en duel. Je cite « Si le culte de ta vieille carcasse de peau ne t'absorbe pas tout entier, si l'immonde peur qui blêmit ta face te laisse une minute de répit, trouve-toi, Constant, le 1er mai à 2h, place de la Concorde. » C'est ronflant, énorme, fanfaronnant et d'un matamor parfaitement naturel chez un Zebakou qui parle et vit de la sorte, sans savoir encore qu'il engendrera l'une des plus fortes figures du roman de Cap et d'Épée. Déjà, Pardaillan perce sous Zebakou. Le ministère public évalue la bravade et préfère le ridicule à la menace constituée par un Zébaco en liberté. Dès le lendemain, l'imprudent est assigné devant les assises pour provocation ou meurtre, selon les articles 23 et 24 de la loi du 29 juillet 1881. Le scandale est formidable, le microcosme journalistique prend fait et cause pour le confrère inculpé et évidemment pour le gérant du titre, Auguste Caillava. Si la justice ne craint pas d'affronter le ridicule, si à l'instar d'Émile Pouget, d'Ernest Gégout, de Charles Malato et autres Maxime Lisbonne, elle condamne à tour de bras, c'est bien que la crainte de ce 1er mai est réelle et que Zébaco fait désormais partie de ceux dont le pouvoir redoute les capacités de mobilisation. L'audience se tient dès le 10 avril. Zébaco est défendu par un militant, Marcel Samba, futur ministre socialiste et adjoint de Jaurès. Zébaco n'en est pas moins condamné sous tous les chefs d'inculpation à 4 mois de prison. On ne lui laisse pas le temps de se retourner. Le 26 avril, Zébaco est mis en état d'arrestation dans les locaux mêmes de l'égalité, sans mise en demeure préalable, ce qui est rarissime. Toute la presse parisienne relate l'arrestation avec force éditoriaux, en majorité indignés, quelles que soient leurs critiques envers le jeune journaliste. Qu'importe, le 1er mai parisien se déroule sans trop d'encombre, malgré de nombreuses arrestations. Constant a gagné la partie. La réponse ne tarde guère. Jules Roch interrompt toutes ses activités pour prendre la tête du syndicat des chauffeurs et ouvriers gaziers, avec un Zébaco à la manœuvre depuis sa geôle. Au début du mois de juin, Paris est plongé dans le noir par une grève qui fera date et demeure comme l'une des sources de la naissance de l'anarcho-syndicalisme français. Cependant, l'action est déconnectée du 1er mai qui vient de s'écouler. Le ministre de l'Intérieur a parfaitement géré le printemps. Zébaco est libéré. Il passe aussitôt la surmultipliée et cumule désormais toutes les fonctions directives à l'égalité. Jules Roch va se désintéresser progressivement de la politique et fonder les concerts, spectacles de la Tour Eiffel, dans lequel il va lancer un certain nombre de jeunes artistes, ou d'artistes déjà confirmés à Marseille, dont Paulus, par exemple, ou Camille Stéphanie, qui l'a mise dans son lit, dans l'internat. Les témoins assurent qu'il déploie une activité rédactionnelle prodigieuse. En psychologue subtil, averti de la situation financière du journal et sachant Zébaco aux abois, les services de la sûreté dépêchent un agent parfaitement anonyme proposant de l'argent en échange d'une légère inflexion de la politique éditoriale. Pour toute réponse, c'est évidemment une provocation. C'est histoire de dire, regardez, on peut acheter l'égalité. Zébaco le cravate illico, le séquestre dans les locaux de l'égalité et lui fait signer des aveux circonstanciés publiés dès le lendemain en première page. Le journaliste parvient en outre à extorquer aux policiers une liste des opérations de la sûreté planifiées pour le 1er mai imminent, c'est-à-dire dénoncer les agissements du ministère de l'Intérieur dénoncés par un agent qui reconnaît être un agent. On est le 1er mai 1891, on est un an plus tard. À un an d'intervalle, Zébaco tient sa revanche sur Constant. Le ministre de l'Intérieur doit, penaud, fournir des explications embarrassées à la Chambre, l'affaire allant jusqu'à faire l'objet d'une interpellation officielle. Le futur père de Pardaillan entretient, il faut le dire, une paranoïa tout à fait remarquable, trait de caractéristique parfois utile à un militant révolutionnaire. Il est physionomiste. Il craint tout le temps d'être intoxiqué. Donc, il passe son temps à se croire victime d'un complot. Et à chaque fois qu'on monte un complot contre lui, du coup, il le démasque, puisqu'il vit dans l'image permanente du complot contre lui. C'est fatigant, mais utile, quand on est militant révolutionnaire. Par exemple, un jour qu'il est interpellé en pleine manifestation antifériste par un inconnu qui lui dit « Salut mon pote », il identifie un mouchard. Et Zébaco, enragé, de retirer sa redingote et de la brûler immédiatement avec un briquet d'amadou en disant « Cet individu m'a souillé, je me purifie ». Vous voyez, le genre de... À la veille du naufrage de son journal, Zébaco est encore sur tous les fronts, relançant le projet du syndicat des ouvriers boulangers parisiens et contribuant à mettre sur pied un syndicat des mariniers de la Seine qui s'illustrera à l'occasion de furieux mouvements de grève. Il s'attelle aussi à la formation d'un syndicat des écrivains et employés de la publicité parisienne qu'il qualifie de paria de la société en disant « Le mouvement révolutionnaire a besoin de professionnels pour vanter ses mérites et son nom. » Enfin, le 7 octobre 1891, l'égalité disparaît brutalement, écrasée de dettes, saignée par les amendes, après avoir tenté en désespoir de cause d'introduire l'illustration en première page. Donc, la mort du titre laisse Zébaco dans un profond état d'abattement. Cette dépression le voit nouer des liens avec le marquis de Morès, un des chefs nationalistes, proche de Drummond, donc l'extrême droite, le temps d'un meeting à Lille le 19 décembre, au cours duquel Zébaco se laisse aller à une furieuse sortie, demandant qu'on extermine tous les juifs. Ce qui pose le problème, évidemment, de l'antisémitisme anticapitaliste et de l'antisémitisme racialiste, étant entendu que Zevaco revendique l'antisémitisme racialiste en disant que c'est une forme d'essentialité de du capitalisme. Et donc, il revendique l'antisémitisme racialiste en disant que le judaïsme a quand même un ennemi encore plus fort pour la société, c'est le jésuitisme. Car il y a, dit-il, une race jésuite. Et donc vous voyez qu'en fait, on est en plein délire. On est en plein délire, et ce qu'il y a d'intéressant avec Zevaco, c'est pour ça que j'ai mis des textes antisémites, pour pas évacuer le problème. Je vous renvoie au livre remarquable de Michel Dreyfus sur l'antisémitisme de gauche. Ce qu'il y a de remarquable avec Zevaco, c'est la traduction en acte. Nous avons tous, évidemment, en tête tous les communards qui se sont pervertis avec le général Boulanger, puis après, en anti-Dreyfusards, et qui sont passés, comme Émile Eudes par exemple, avec armes et bagages chez les antisémites de Drummond, de Maurès et autres déroulés. Et bien Zevaco, il va faire l'inverse. C'est-à-dire que Zevaco, lui, va partir antisémite, revendiqué dans l'égalité, et il va être Dreyfusard, et il va rejoindre Jaurès. Et c'est justement ce mouvement inverse qui m'intéresse, d'abord pour bien dire que extrême droite et extrême gauche, c'est pas pareil, et pour dire que si on a les parcours de gens qui commencent à l'extrême gauche et qui finissent à l'extrême droite, évidemment tous les historiens font ce type de recoupement pour essayer d'identifier un parcours à la Doriot, permettant en fait de voir, de systématiser le parcours de Jacques Doriot pour le faire rentrer dans un système, eh bien jamais encore les historiens de gauche n'ont compris l'intérêt de faire état des parcours inverses pour montrer qu'il n'y a pas justement de systématisation et que s'il y a des parcours comme ça, c'est justement parce que les étiquetages politiques, les classifications historiques n'ont absolument aucun sens avant le Front Populaire. Et j'en suis désolé pour la mémoire de René Raymond et pour toutes les études de Sciences Po actuellement, mais autant toute l'histoire politique dirigée par Sirinelli fonctionne à partir de 1936, autant les tentatives de tableaux et de classification idéologiques par famille sont complètement improductives et inopérantes pour la Troisième République, et il y a là-dessus des milliers de pages absolument idiotes écrites par des gens qui, par ailleurs, sont historiens bien plus chevronnés que vous, monsieur. Parce que, justement, le problème est que ces parcours n'ont pas été étudiés, parce que, justement, on a étudié que les grands journaux et les grands faits politiques sans voir la complexité et la confusion thématique qui accouchent des grandes lignes républicaines, tout du moins à partir de 1901-1905, puis de la guerre de 14, puis de l'après-guerre de 14. Et quand on voit par exemple qu'Alexandre Zevaès, littérateur connu, dont le pseudonyme venait du mélange entre Zevaco et Vallès, va être un collaborateur de Jaurès dans l'histoire de la Révolution et va défendre 20 ans plus tard l'assassin de Jaurès Raoul Villain, on voit tout simplement ce système d'évolution de l'extrême gauche par l'extrême droite. Là où en fait, il faut y voir l'expression d'une rivalité entre Zevaès et Jaurès et d'une division profonde quant à l'action du mouvement ouvrier. Faut-il passer par la députation ou faut-il passer par l'anarcho-syndicalisme? Et je pourrais multiplier les exemples à qui mieux mieux. Encore une fois, les classifications idéologiques ne marchent pas entre les années boulangistes et les années de l'affaire Dreyfus. Tout est mélangé. Et c'est justement ce mélange qui sort des pages de Zevaco ou, je dirais, de la plupart des prosateurs militants d'époque, quelle que soit leur idéologie. Donc, Zevaco va finalement passer au courrier français et exonéré de la copie quotidienne, il va travailler son style. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il a fait des feuilletons à l'égalité, il a fait des éditoriaux. Et il va développer une sorte de compromis entre la nouvelle brève et l'éditorial politique, s'essayant à la critique d'ouvrage et refusant de céder à la facilité. Ses articles de 1893-1894 sont certainement les plus aboutis et peuvent être considérés comme la première transition entre la révolte, d'une part, et Pardaillan, d'autre part. Dans le même temps, il se met en ménage cité bergère avec une jeune Italienne de 22 ans, Francesca Passerini, qui accouche bientôt du premier de leurs 5 enfants. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que Zivago va continuer à militer au Courrier français. Il arrive au Courrier français, immédiatement, il dénonce un clandé, un bordel, qui est tenu, donc ça s'appelle le bal des vaches, et il publie les preuves selon lesquelles le bordel appartient en sous-main au juge Paul Toutet, qui est un magistrat de la 9e chambre correctionnelle, chargé de réprimander les outrages aux bonnes mœurs. Ce qui ne s'invente pas, quand même. C'est assez extraordinaire. Alors, évidemment, j'aurais pu vous parler du bal des Quasars, évidemment, j'aurais voulu vous parler de toute la manifestation après le bal des Quasars, à savoir, bon, vous voyez, je voudrais que la société n'ait qu'une seule tête pour la lui couper d'une seule fois, Villette, c'est tout à fait Zévaco, hein. Descendre ta croix est feignant, on est dans le Courrier français actif. Pendant ce temps-là, Zévaco écrit, voilà, les vengeances sociales, même si un peu plus tardif, l'assiette au beurre. Voilà, j'aurais voulu vous parler du bal des Quasars, j'aurais voulu vous parler donc de l'incroyable manifestation qui en a résulté avec la lettre du sénateur Béranger. Allez, bon, le bal des Quasars, le premier qui s'est tenu à l'Élysée-Montmartre avec Jules Roch en sous-main, et le deuxième au Moulin Rouge avec Jules Roch et Hollère en sous-main. J'aurais voulu vous parler du sénateur Béranger, que président de la Ligue contre la licence et pour la propreté des rues, qu'on a surnommé le Père Lapudeur. Donc voilà, c'est le fameux Père Lapudeur, le premier, et de la plainte qu'il a formée pour dénoncer les turpitudes du bal des Quasars et la manif qui a entraîné une semaine d'insurrection au quartier latin, un mort, l'attaque de l'Hôtel Dieu, la mobilisation de 2 régiments et de toutes les forces de police, la fermeture de la Bourse du Travail. Cette manifestation de 1894 a été en fait pour les contemporains l'équivalent mai 68 pour nous. Le problème de ces manifestations violentes, c'est qu'elles sont intervenues la même année que les attentats anarchistes et le début de l'affaire Dreyfus. Donc là encore, elles ont été complètement dissoutes dans l'actualité du moment et pourtant, elles ont été particulièrement importantes. Voilà, donc c'est le moment où Zévaco va multiplier donc ses articles dans le Courrier français. À ce moment-là, on va avoir des articles d'une variété absolument déconcertante. Hein. Vous avez des articles contre les grands magasins, vous avez la volonté monopolistique des grands magasins, vous avez des articles qui concernent évidemment le monde de l'argent, vous avez des articles qui redoutent l'abrutissement de la société des loisirs qui se met peu à peu en place par les champs de course, par exemple. Vous avez la dénonciation des asiles de nuit dans lesquels les pauvres sont tout seuls, etc. Donc ce sont des articles d'une modernité incroyable. Vous avez des articles évidemment anticoloniaux, anticolonialistes, qui sont absolument fantastiques. Vous avez un ministère de la pitié dans lequel, avec Séverine, il va tenter de créer l'équivalent des Restos du Cœur aujourd'hui. Hein. Civilisation mortelle, incroyable. Voilà pourtant un peuple qui fut heureux, dit-il à propos des Algériens. Qui a passé par là? Qui a changé les guerriers et les pasteurs en esclaves livides, livrés en décision des conquérants, affamés sur les moissons mêmes qu'ils ont levées? La civilisation. Car c'est au nom de la civilisation maudite que les canons et les fusils sont venus, que les vaisseaux cuirassés ont jeté sur les bords de la mer caressante des régiments de tueurs, que les tribus vaillantes ont été repoussées à coups de crosse jusque sur les sables du Sahara, que les képis galonnés et les turbans dévorasses usuriers se promènent à la face du ciel de feu sous les radieuses constellations. Parlons-en donc un peu de cette civilisation qui rugit encore, plus au sud, en ce moment même, dans les brousses dahoméennes, massacrant les femmes et les enfants, incendiant les villages, violant les jeunes filles, dévastant les récoltes. Mais c'est extraordinaire. Il y a des textes qui sont absolument prodigieux. Bon, je vous passe derrière l'évocation du Paris bas-fond, car il va y avoir des textes qui parlent du vieux Paris, du Paris justement des petites rues, des petites ruelles, c'est-à-dire toutes les évocations qu'on va retrouver après dans les romans historiques qui sont déjà en germe, à la fois dans leur noirceur, dans leur poésie, dans leur pittoresque, dans l'évocation du petit peuple, et en même temps derrière, avec des caractères articulés sur ce cheval crevé à travers la rue qui provoque l'attroupement des passants, la dénonciation du sort fait aux gitans, etc., etc., qui sont absolument fantastiques. Je vous passe tout ça. Zévaco va finalement s'orienter vers les anarchistes. Et derrière, il va finalement s'orienter aussi vers une dénonciation de l'affaire Dreyfus, comme dit-il, un complot des jésuites. Et pour lui, sa lecture de l'affaire Dreyfus, c'est un complot de l'Église pour, en fait, justifier les turpitudes de l'Église. Et ce qu'il y a de très intéressant, c'est que du coup, il va prendre fait et cause pour le capitaine Dreyfus et il va se rapprocher des Dreyfusards après avoir un temps flirté avec l'extrême droite. Donc, il va fréquenter les gens du libertaire, il va fréquenter Zotaxa, il va fréquenter l'anticlérical, il va fréquenter Sébastien Faure, il va fréquenter tous les grands noms, puis petit à petit, il va vraiment prendre fait et cause pour Dreyfus. Et évidemment, pour lui, c'est un complot, comme je le disais, donc religieux. Il dénonce donc cette solitude, cette misère, cette solitude du pauvre qui est à même les rues. Pour lui, c'est même plus l'ouvrier qu'il s'agit de sauver, c'est le misérable urbain, celui qui habite dans les taudis. Allez, n'ont pas payé leurs termes, les familles à la rue. C'est exactement la tonalité des articles de Zelenko. Et voilà, pour lui, petit à petit, il y a un désenchantement qui va s'emparer de lui et qui va le pousser à rejoindre Jaurès dans la petite République socialiste. C'est dans ce quotidien dreyfusiste que Zevaco va entamer sa nouvelle carrière d'écrivain de KPDP avec un roman intitulé Borgia, dont les premières livraisons paraissent vers 1900. Le polémiste cède définitivement la place à l'écrivain, sans doute par lassitude de toutes les luttes perdues ou inachevées, des trahisons de la sociale, toujours remises à un grand soir ultérieur. Désormais, il tentera... Tu peux revenir sur avant ? Désormais, il tentera de lutter par l'éducation, la sensibilisation, et choisit pour ce faire la voie du divertissement. Pardaillan n'a plus qu'à apparaître. De 1888 à 1900, Zevaco n'aura finalement consacré que 8 ans au militantisme actif. Encore ne fait-il pas partie des principaux acteurs de l'anarchisme, même si ce n'est pas faute d'être monté au créneau. Trop d'erreurs, trop d'excès, trop de naïveté peut-être. Il se jette à corps perdu dans l'écriture avec une rage semblable à celle qui déployait au temps de l'égalité, livrant à Géraud Richard plus de 1400 feuilletons, 7 livres en 5 ans. 7 livres en 5 ans, c'est colossal, je ne sais pas si vous imaginez. Borgia, Triboulet, La Tour de Nesle, Les Amants de Venise sont autant de réussites qui tiennent le lecteur en haleine au moment où le genre policier tente à anéantir le roman historique. Les éditions Fayard les publient en volume dans leur nouvelle collection populaire avec les sublimes couvertures de Giovanni Stalacci. En 1905, il s'embourgeoise définitivement au matin, attiré par une hausse significative de son lectorat. Intérêt financier, vanité, évolution idéologique, créditons-le plutôt d'une certaine cohérence. Pour la première fois, il va remplir le but qu'il s'est donné, à savoir promouvoir ses idées anarchisantes à travers son personnage de révolté absolu, Pardaillan, qui caracole, ferraille et défie l'Église et les plus puissants pour le plus grand bonheur des lecteurs. Capestan donc, le royal de Bérovert, l'héroïne Héloïse de l'Esparce, sont toutes de la même eau et toutes de la même fibre, hors discours à présent, mais toujours tapis dans le même but, toujours inscrit dans le même but, c'est-à-dire dénoncer les inégalités sociales. Le cinéma, évidemment les affiches de lancement sont fabuleuses, le cinéma lui fait les yeux doux, et il est probable, et c'est le drame de Zevaco, il est probable qu'il fût devenu scénariste sans une mort prématurée. La guerre de 14 force ses deux fils à partir au front, lui-même est contraint d'évacuer sa famille sur Aubonne par crainte des bombardements et de la grosse Bertha. Lui le pacifiste, lui qui récusait dans l'égalité la nécessité de reprendre l'Alsace-Lorraine, au prix d'un nouveau conflit, des gens qui disaient il ne faut pas reprendre l'Alsace-Lorraine et il faut leur laisser la volonté de choisir entre la France et l'Allemagne parce que ces gens-là ont le droit de décider pour eux. Et s'ils veulent choisir l'Allemagne, c'est leur problème. Il n'y en avait pas beaucoup à l'époque. Eh bien lui ne verra jamais la fin du conflit. Il meurt le 8 août 1918 des séquelles pulmonaires de la phtisie qu'il a contractée à Sainte-Pélagie. Car il a été emprisonné donc deux fois à Sainte-Pélagie. Je vous ai zappé la deuxième fois pour un petit peu gagner du temps, mais la deuxième fois était beaucoup plus dure que la première. Il a été emprisonné pour justement ses articles sur le bal des Quatre-Arts et juste après, et donc il y a contracté la phtisie, et c'est cette phtisie qui finalement va déterminer son cancer du poumon, dont il va mourir une vingtaine d'années après, mais qui cause quand même une fin relativement, il n'a pas 60 ans. Zevaco, polémiste, fait du journaliste de terrain sans le savoir. Dans sa volonté rageuse de mobiliser l'opinion, il adopte un angle de vue social inhabituel, témoignant de son empathie pour la rue et d'une perception intuitive de l'hétérogénéité du prolétariat. C'est l'anti-marxiste absolu. Il veut rendre le peuple dans sa diversité. Il fait des reportages sur les grandes grèves du Nord. Ils sont très différents de ce qu'on lit. Il fait des reportages sur les asiles de nuit et le petit peuple montmartrois. Il prend donc tour à tour la défense des hommes de troupe, il prend la défense des femmes, il prend la défense des paysans. Il critique le marxisme en disant que c'est une idéologie qui va mener au totalitarisme, car le prolétariat, l'avant-garde du prolétariat, il dit « Le prolétariat, c'est déjà quelque chose que j'ai du mal à saisir, mais l'avant-garde me semble quelque chose d'extrêmement autoritaire, et je la récuse. » On est en 1889. Il poursuit les arrestations au faciès. Quand il y a Céleste Montalant se fait arrêter dans la rue, on la prend pour une prostituée, il dit « Eh bien, combien de femmes sont soupçonnés de prostitution et combien de gens arrêtent-on sur leur mauvaise mine et ils dénoncent les pratiques policières, ce qui est quand même d'une modernité absolue, c'est extraordinaire. Ils dénoncent donc la société caserne prônée par les marxistes, c'est absolument remarquable. Qu'ils soient activistes, ces textes sont conçus comme des outils de mobilisation, rien d'autre. Qu'ils soient activistes ou simples chroniqueurs au Courrier français, il n'a rien à vendre et revendique un positionnement individuel au prix de nombreux contresens, d'erreurs conceptuelles parfois tragiques, mais dont ses amis sauront le prévenir, en particulier pour renoncer à l'antisémitisme dont je vous parlais tout à l'heure. Fier comme Artaban, Zévaco n'est pas obtus et lançant derrière ses mots un désir permanent d'engueulade, poumon, disait-il, d'un rôle militant efficace. Et, comme le note un spécialiste de cette littérature que l'on nomme populaire, Michel Zévaco a donné au roman historique une orientation anarchiste. Pardaillan est un asocial, un marginal, combattant le trône et l'autel. Terminons cette conférence par une dernière note pleine de panache révolutionnaire. Pour les 20 ans de la Commune de Paris, Zévaco, donc en 1891, Zévaco réalise tout seul, un numéro hommage de l'égalité qui est un monument uchronique partant du principe que la Commune a réussi et qu'elle n'a pas été massacrée. Il livre alors une sorte de bilan imaginaire et commence par raconter l'histoire de cette commune qui a vaincu. L'article commence ainsi, triomphe de la Révolution, l'égalité, jeudi 20 mars 1890. Triomphe de la Révolution est accomplie, la commune est proclamée. Un coup d'épaule a suffi pour renverser l'ordre social bourgeois et capitaliste, le peuple est maître. Maître de ses destinées, maître de son avenir. L'exploitation patronale n'est plus qu'un de ces mauvais rêves que l'histoire seule se charge d'éradiquer. Merci, peuple de Paris, cette nuit tu as été grand, tu as été héroïque, tu as été toi-même. Merci de nous avoir gagné la liberté, la fraternité, l'égalité, ces étonnantes vérités utopies, et mensonges hier encore, réalité aujourd'hui. Qu'a-t-il fallu pour cela? Une nuit. 3000 hommes déterminés à vaincre ou mourir ont suffi. Vive le peuple libre. C'est de ce Zévaco-là que nous garderons peut-être un souvenir complémentaire du Zévaco qui a enflammé les souvenirs de notre enfance dans les sorties d'épées et de flamberges de Pardaillan qui finalement déjà baignaient notre soif de justice dans l'esprit des petits enfants que nous étions alors. Je vous remercie.